Voilà, alors. Vous avez vu que aujourd'hui, nous allons parler de Samson et Delila. Alors, avant de voir des textes en hébreu, je vais vous faire une introduction. Le livre des juges, je pense que tout le monde l'a déjà lu, il raconte l'histoire de 12 juges. Il y a 12 juges qui sont cités, certains ont un développement assez long et d'autres sont simplement cités, hein, avec un verset, voire deux. Mais ils sont 12. Bien. Et il y a quelque chose de curieux dans le livre des juges, parce que vous voyez, à partir de Josué, vous voyez l'histoire qui se déroule, et les chapitres de la fin, c'est-à-dire les chapitres 17 jusque 21, sont des chapitres qui sont ajoutés et qui sont très particuliers. Je vais m'expliquer. On pense que c'est Samuel qui a écrit le livre des juges. Hein? Donc Samuel a repris l'histoire qui l'a précédée et il l'a écrite. D'accord? Et on voit dans les chapitres 17 et 18, donc juste après Samson, parce que Samson est le dernier juge avant Samuel. D'accord? Et entre Samson et Samuel, vous avez 4 chapitres. Ces chapitres nous racontent des histoires vraiment tristes. Dans le chapitre 17 et 18, on raconte l'histoire d'une partie de la tribu de Dan qui s'en va tout au nord, qui tue tous les gens d'une ville et qui crée la ville de Dan au nord. Et c'est vraiment une histoire abominable. Bon. Et puis, au chapitre 19 à 21, donc ça fait 5 chapitres au total, hein, eh bien là, on voit l'histoire de Benjamin qui... Les Benjamites vont tuer une femme, littéralement, en abusant d'elle, etc. Et la tribu de Benjamin va être réduite à presque rien. Hein, vous vous rappelez de cette histoire. Donc, une histoire abominable. Et quand on analyse ça, on se rend compte que l'auteur a voulu montrer le péché qui régnait en Israël et il a pris la tribu du nord et une tribu du sud, comme s'il voulait montrer que c'était dans tout Israël, mais il n'a pas tout expliqué. Il a dit, voilà, j'en prends une au nord, j'en prends une au sud et regardez ce qui s'est passé. Pourquoi c'est ajouté à la fin, je n'en sais rien. Mais on est certain que ça s'est passé au début. Ça s'est passé juste, peut-être même encore du vivant de Josué, mais en tout cas tout au début de l'histoire des juges. C'est en quelque sorte deux annexes qui ont été rajoutées à la fin du livre des juges. Alors pourquoi sait-on que ces deux histoires se passent chronologiquement au début? Ben, je vais essayer de vous le dire. Le premier... Alors... D'abord, l'histoire de Dan. Dan qui s'en va dans le nord. Il prend avec lui... un Lévite. Et alors je lis dans la version second. C'est dans Juges 18 au verset 30, vous l'aurez. Hein. Ils dressèrent pour eux une image taillée, et Jonathan, fils de Gershon, fils de Manassé, lui et ses fils furent prêtres pour la tribu des Danites. Maintenant, je vais vous lire dans une autre version. C'est la version d'Arbi. Et les fils de Dan dressèrent pour eux l'image taillée, et Jonathan, fils de Gershom, fils de Moïse. Alors, dans une traduction, vous avez Manassé, et dans l'autre, vous avez Moïse. Et la vérité, c'est la suivante. Je vais écrire en hébreu Moshe. Alors, un mem, un shin et un he. Ça, c'est Moshe. Je ne mets pas les voyelles. Hein.
C'est quel verset? C'est juge 1, 18?
Juge 18, 30.
1, 18,
30. Il n'y a pas 1, hein, c'est juge, chapitre 18, verset 30. D'accord? Donc voilà Moshe. Maintenant, je vais vous écrire Ménaché. Alors, un mem, un nun, un shin et un he. La différence, c'est un nun. D'accord? Alors, la vérité est la suivante. Il y a très peu de différence. Et dans la version des Massorètes, alors les Massorètes, ce sont ces juifs qui ont mis les voyelles. Ils ont mis des siècles à faire ça. Hein? Ça a été un travail extraordinaire, ils ont mis des siècles. Et dans la version des Massorètes, c'est écrit comme ça. Un petit nun tout petit, un shin, et un he. Le nun, il est tout petit et en l'air. Alors, qu'est-ce que les Massorètes ont voulu dire? Eh bien, en fait, c'était effectivement le petit-fils de Moïse. Et ils expliquent que ce petit-fils de Moïse était tellement mauvais qu'il avait en quelque sorte le caractère d'un roi qui va venir plus tard et qui s'appelle Ménaché. Et Ménaché, qui a été 55 ans roi, a fait des dégâts pas possibles en Israël. C'était vraiment le pire de tous. Hein? Alors, pour ne pas salir le nom de Moïse, de Moshe, ils ont dit, effectivement, c'était le petit-fils de Moshe, mais il avait le caractère d'un autre qui va venir plus loin. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Mais vous voyez que pour être le petit-fils de Moshe, c'est forcé que ça s'est passé au début et non pas à la fin. En ce qui concerne l'autre histoire, celle de Benjamin, là aussi, il y a un personnage qui est cité. À quel endroit c'est cité? C'est dans Juge 20, 28. Et là, c'est dit clairement que dans l'histoire de Benjamin, le sacrificateur était le petit-fils d'Aaron. Alors, petit-fils de Moïse et petit-fils d'Aaron. Vous imaginez? D'accord? Bon, alors l'histoire est donc racontée à la fin et non pas... Elle aurait dû être normalement, si vous voulez, au début du livre des juges. Et ça montre en quelque sorte l'état de péché quand Josué est mort. Hein, dans quel état de péché se trouvaient les tribus d'Israël. Vous voyez? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Alors maintenant, on va parler un peu de Samson. Bon, tout le monde sait que... Alors Samson, c'est quelqu'un d'extraordinaire... Et Dieu a voulu que ça soit quelqu'un d'important parce qu'il y a trois chapitres complets, rien que pour lui. C'est quand même beaucoup, hein. Quand on pense que certains juges ont eu deux lignes. bon, alors bien sûr, Samson, tout le monde sait que c'était quelqu'un qui était doué d'une force extraordinaire. S'il faisait les Jeux Olympiques, il serait médaille d'or. Hein? Et il a été consacré dès le ventre de sa mère. Il était naziréen, donc mis à part. Et il a été visité quatre fois par le Saint-Esprit, c'est-à-dire plus que tous les autres juges réunis. Hein, d'accord? Alors, on attendait beaucoup de Samson. Et on se rend compte qu'à la fin de sa vie, ben, les Philistins dominent encore. Et il y a beaucoup de prédicateurs qui, j'allais dire, tapent sur le dos de Samson en disant « quel pauvre type, il n'a pas tenu ses promesses, etc. » Je pense personnellement qu'il faut voir autrement. il faut replacer Samson dans le contexte. Quand vous voyez l'histoire des autres juges, vous vous rendez compte que à chaque fois, il y a eu repentance des tribus et finalement, par le travail du juge, il y a eu rétablissement et délivrance. Or, Samson, lui, il est placé dans une situation où il y a une telle cohabitation avec le péché qu'il n'y a plus de repentance. Il n'y a plus de repentance possible. Et l'ange de l'Éternel qui donne la mission à Samson, l'ange de l'Éternel définit son ministère comme ça. Il commencera à sauver Israël. Il commencera. C'est pas il sauvera Israël. Il commencera. Vous voyez ? Alors, en d'autres termes, l'histoire de Samson n'est pas une histoire où il doit libérer Israël, c'est pas ça. Il doit montrer à Israël quel est son péché, quel est son état. Et c'est pour ça que la vie de Samson est un enseignement pour montrer ce qu'il faut pas faire. Et ce serait intéressant d'étudier tout Samson, mais on n'a pas le temps ce matin. Mais vous voyez par exemple que Samson va faire de mauvaises alliances. Et aussitôt, il y a les conséquences. Par exemple, il y aura les renards qui vont prendre, on va lui mettre feu à la queue des renards, et ça va foutre le feu à tout au blé, etc. Donc, les conséquences d'une mauvaise alliance, eh ben les voilà. Et toute sa vie, c'est un enseignement pour Israël. Hein? Alors, ce que j'ai essayé de faire pour cette étude ici, c'est, vous savez que nous, les chrétiens, il faut reconnaître que souvent, on ramène tout à notre nombril. Et qu'on interprète toujours la Bible par rapport à nous. Hein? Alors que la Bible, c'est d'abord pour les Juifs. Je m'excuse de le dire, mais... Bon. Mais, voilà. Donc, et j'ai pas manqué à la tradition. J'ai ramené à mon nombril. Hein? Alors, ce que j'ai essayé de voir à travers l'histoire de Samson, vous savez qu'on peut interpréter la Bible de différentes manières, il y a différentes couches. Alors là, c'est la couche chrétienne, mon nombril, hein? D'accord ? Et je pense que comme Samson est né de manière miraculeuse, sa mère était stérile, hein? À chaque fois qu'un enfant naît de façon miraculeuse comme ça, c'est que Dieu veut parler à toutes les générations. Et Dieu, à travers Samson, parle à notre génération, nous qui sommes à la fin des temps. Et il faut reconnaître que l'Église, mais pas seulement tous les croyants, cohabitent avec le péché. Et que nous sommes dans une période où il y a de moins en moins de repentance. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On s'amuse beaucoup, clap, clap, clap dans les mains, tout le bazar, on danse, etc., merci Seigneur, mais la repentance, j'en vois pas beaucoup. Et on est dans cette période. Alors, bien sûr, la mort de Samson, les chrétiens voient très bien la mort de Samson, hein, qui tient les deux poteaux, etc., ils voient Jésus en croix. Hein. Et Jésus qui meurt, et que la méchanceté tombe. D'accord ? Mais, bon, alors, moi, je vais vous parler du problème entre Samson et Delila. Et on peut comprendre que l'histoire de Samson, c'est un enseignement pour la fin des temps par rapport à l'Église, mais par rapport à tous les croyants, j'allais dire, qui sont en train de s'endormir. Le Seigneur nous a dit dans Matthieu, prenez garde que personne ne vous séduise. D'accord ? Or, c'est exactement ce qui est arrivé à Samson. Son histoire est un enseignement. Sa vie est un enseignement. La différence entre ce que nous, on appelle prophètes dans nos églises et les prophètes de l'Ancien Testament, c'était que les prophètes de l'Ancien Testament, leur vie était une prophétie. Quand il dit à un prophète, marie-toi avec une prostituée, c'était bien pour parler. Hein? Il ne va pas dire ça à un chrétien. Hein? D'accord ? Donc c'est leur vie qui était une prophétie. Et la vie de Samson est une prophétie. Alors, je pense que c'est une façon de voir. Hein. On peut comparer Samson qui se fait séduire à l'église de Laodicée, qui est en train de s'endormir, qui se croit parfaite, etc., et qui, à cause de sa tiédeur, va être détruite. Alors, la première chose, c'est de voir les deux noms, Samson et Delila. Oh. Alors, pourquoi on l'appelle Samson ? J'en sais rien. Parce qu'il ne s'appelle pas Samson. Hein? Donc un shin avec un i, ensuite un mem avec un shiva, un shin de nouveau, pardon, c'est un sin, excusez-moi, c'est deux sins, un olon et un nun final.
Qu'est-ce que tu as mis au-dessus du deuxième ?
Non, ça c'est un éclat dans le tableau.
Il y a rien
au-dessus. Hein ?
Ah non, c'est le haut à côté.
Alors, comment vous lisez ça ?
Simoun.
Hein ?
Simsoun.
Non. Simsoun.
Simsoun. Simsoun. Simsoun. Alors, pourquoi c'est devenu Samson ? Sûrement que les Grecs sont passés par là. Oui.
C'est un chine ?
Deux chines. Ah.
Donc ça fait
chine,
chimchon, chimchon.
Excuse-moi, t'es sûr ? C'est possible, j'ai peut-être fait une erreur. C'est des chines ? Alors, corrigez, c'est des chines. Shimshon. Alors, Shimshon, la racine, c'est Shemesh. Shemesh, ça veut dire soleil. Donc, si vous voulez, le nom de Samson représente la lumière. Déjà.
La racine, c'est Shemesh.
Oui, vous corrigerez sur ma feuille ici, dans mes explications. Alors, la deuxième personne, c'est Delila. Donc,
Daniel, s'il te plaît, parce qu'il y a le reflet de la lumière, on ne voit pas trop bien les
soleil.
C'est mieux, ça ? Est-ce que ça va ? C'est les autres qui voient plus. Alors, comment qu'on fait ? Et ça ? Si j'éteins... Et vous voyez plus rien ? Non, on va perdre son temps là. Alors, Dalet. avec un dagues dedans. Un Sheva. Lamed avec un I long. Lamed avec un A long. Et un A. Un E, pardon. Des lilas. Alors, si vous allez voir dans les dictionnaires bibliques, tout partout, on vous dira que la racine, c'est dalal. Dalal, ça veut dire faible, maigre, pauvre. Autrement dit, tout le monde dit que Delila, ça devait être une petite personne maigrichonne, un petit peu malheureuse, un petit peu, voilà, vous voyez. Et puis, le gros costaud qui vient la sauver. Mais, alors vous trouverez nulle part une autre explication. Moi, je vais vous en donner une autre. Regardez. Je coupe ici aux dalettes. La racine qui est là, Leila, ça veut dire la nuit, les ténèbres. Et devant, vous avez un dalet, c'est la porte. La porte des ténèbres. Autrement dit, c'est la lutte entre le soleil et les ténèbres. Et ça, vous trouverez nulle part. C'est une façon de réfléchir qui j'espère et je crois est en train de se mettre à l'intérieur de moi, une façon juive de comprendre les choses, en décomposant les mots comme ça.
Donc le dalet, j'ai dit que c'était quoi la
porte ? C'est la porte. Dalet, ça veut dire dalet, c'est une porte. Hein ? Donc on a la porte et naturellement Shimshon va passer par la porte des ténèbres et il va perdre la vue. Il sera dans le noir. C'est logique. Vous voyez ? Alors, ce que je voulais voir avec vous, c'est comment elle va la voir.
C'est la nuit, là, il a...
Oui.
La ténèbre, c'est rocher.
Oui, mais quelquefois, on traduit aussi ce mot-là par ténèbres, parce que la nuit, c'est les ténèbres, hein. Mais ben c'est la nuit, oui. Hein? Porte de la nuit.
Les ténèbres sont appelées nuit, en fait.
Oui, voilà. Alors, bon, ce que je vais vous expliquer, c'est une façon, c'est une interprétation. Hein? D'accord? Et on va voir les quatre attaques, parce qu'elle va l'attaquer quatre fois. Hein? Alors, la première, je vais la faire au tableau comme ça, vous l'aurez dans ma feuille, et les autres, c'est ça, dans les versets que je vous ai distribués. La première attaque, Delila va essayer d'affaiblir Samson, et elle utilise, alors, Yod avec un Sheva, Tav avec un Alon, Resh avec un ilon et un même final. Et puis, plus loin, un lamed avec un abref, un chet avec un ilon et un même final. Voilà, elle utilise ça. Vous savez que en fait, il lui dit, bah, si tu veux m'affaiblir, t'as qu'à m'attacher avec des cordes. Hein? Seulement, il faut voir un petit peu ce que c'est ces cordes. Alors, ici, si vous le dites en...
Oui.
Vous verrez plus ça, hein? C'est mieux ?
Ça dépend.
J'ai la lumière maintenant.
C'est bon. Hein? C'est bon. Seigneur. Ils ont changé les lumières ou quoi? Alors, ça veut dire donc Yetarim Lachim. Yetarim Lachim. Donc, elle va utiliser ça. Alors, là, la racine, vous voyez que c'est un pluriel, hein? C'est deux pluriels d'ailleurs. Voilà, hein? C'est deux pluriels singuliers, pardon, pluriel masculin. Alors, là, la racine, c'est Yeter, donc Yod, Tav, Resh, avec des ségoles, c'est un mot ségolé, Yeter, qui veut dire résidu, reste. Mais avec ça, si je change les voyelles, si je mets un tav, un T long, pardon, un A long et un E, vous voyez, je mets un autre jeu de voyelles, là ça change, ça veut dire clou, ça veut dire pieu du tabernacle, ça veut dire cheville. Et puis, il y a encore... dans ce mot ici, vous avez comme racine la, lach, comme ça, lach, qui veut dire humide, frais, vert. Alors, ici, c'est mon interprétation. Attention, hein, c'est discutable, c'est tout ce que vous voulez. Ici, ça nous parle du clou. Et ici, ça nous dit que c'est vert, frais. Or, si vous allez dans Luc 23-31, il nous est dit que Yeshua est du bois vert.
Si on fait ça au bois vert, que ça le bois sec.
Et en même temps, on sait, nous, que Yeshua, c'est le clou.
Oui.
Vous vous rappelez?
Oui.
Donc, la première attaque, je parle pour mon nombril, hein. On a bien compris, hein, c'est une interprétation chrétienno-chrétienne. La première attaque dans la séduction, c'est une attaque contre Yeshua. Et cette attaque ne va pas marcher parce que les chrétiens sont très attachés à Yeshua qui est mort et ressuscité. Donc la première attaque, elle échoue. Vous savez, on ne peut pas séparer Yeshua des chrétiens, moi je le dis en hébreu, comme on ne peut pas séparer la Torah des juifs.
D'accord.
Et ce qu'il faut, c'est essayer de créer un pont entre les deux. Voilà. Mais pour les chrétiens, l'attaque contre Yeshua, ça ne marche pas. Donc, elle va essayer autre chose.
Bah Daniel, là tu l'avais bien marqué, Shimshon.
Oui, mais c'est dans ma feuille ici.
Ah, d'accord.
Vous corrigerez les deux points.
L'air, c'est un verbe aussi, ça veut dire pas.
Oui.
Par achat, l'air des rats, c'est pas pour
toi. L'air des rats, oui. Oui. T'as raison. T'as raison, mais souvent les mots ont plusieurs sens. Hein. Alors, on va maintenant. Passer à la seconde attaque. Alors, vous avez vu que je vous ai distribué des versets où il y a toute une partie qui est déjà faite, parce que ce serait trop long. Donc, on va voir. Moi, c'est en rouge, bien sûr. Vous, malheureusement, c'est du gris. Hein. Sur quoi va porter la deuxième attaque? Donc, pour moi, la première attaque, c'est sur Yeshua. Ah, oui. La deuxième, c'est encore des cordes. Hein.
Ah, oui, c'est des cordes.
Alors, si je prends le texte Juges 16, 11. Et il dit à elle. Ça, c'est le début. Et je reprends maintenant. Donc, Aleph, avec un I bref, même final, un trait d'union. Aleph, allons. Sa mère, O. Et Resh. Alors, si vous essayez de lire ce mot, ça fait quoi ? Im. Im Asor. Im, ça veut dire si. Si tu fais ci, si tu fais ça. Hein? Donc, si je le traduis, ça fait si. Et Asor, ça vient du verbe Asar, qui veut dire attaché, emprisonné, lié, enchaîné, attelé, enfermé. Ça veut dire beaucoup de choses. Hein? Et ici, c'est un verbe à l'infinitif, à la forme active pâle, dont on a déjà parlé, mais que j'ai jamais expliqué. Donc, et vous allez voir que là, on a un hébraïsme, parce que cette racine qu'on a ici, Asar, on va la retrouver dans le mot suivant. Vous savez, vous vous rappelez quand on disait « ils briqueteront des briques ». Ça, c'est un hébraïsme. Et bien ici, on va avoir « si attaché, il m'attache ». Ça, c'est, ça arrive souvent. « Si de mort, vous mourrez ». Vous voyez ? C'est des hébraïsmes. Donc ici, « si attaché ». Et le mot suivant, yod avec un A bref, aleph avec un A bref, sa mère avec un sheva, ensuite un resh avec un ou, et un noun avec un ilon. Alors, essayez un petit peu de le lire. Ya'as, ya'as, runi. Ya.
La première syllabe, elle s'arrête après sa mère ou avant ?
Hein ?
La première syllabe, parce que quand ça s'arrête, la première syllabe, on ne prononce pas.
Ah, on a une syllabe ici.
Ah, si, celle-là, d'accord. Après la deuxième,
comme ça, hein. Je rappelle, hein. À chaque une voyelle, une syllabe. Le sheva n'est pas une voyelle. D'accord ? Il y a as, rou, ni. Il y a as, rou, ni. Alors, dans ce mot, vous allez retrouver asar ici. Vous voyez ? Vous voyez, donc vous retrouvez la même racine. Et cette fois, c'est à la forme pâle. Alors, ni, c'est moi. Ici. Donc, on a vu que c'était le verbe attacher. Donc, attachez-moi. Hein. Et ensuite, ici, c'est à la forme, c'est à la troisième personne du masculin pluriel. Parce que je vous rappelle que cette brave femme très délicate a fait venir des princes philistins qui vont lui donner beaucoup d'argent. Et une des preuves que Samson n'aurait pas couché avec, c'est que justement ces gens sont cachés dans sa chambre. On a toujours accusé Samson de coucher avec les femmes, etc. Or, c'est pas évident du tout. On a aussi dit que cette femme était une philistine, c'est pas non plus évident. parce qu'elle habitait la même vallée que lui. Lui, il était dans le haut de la vallée et elle, elle était dans le bas. Et où était la frontière, c'est pas évident.
Il habitait dans quelle tribu
Samson, Dan. Oui. Mais si tu veux, lui, Samson, il était resté là où, normalement, il avait son héritage, c'est-à-dire la bande de Gaza.
Oui, parce que Dan était au nord.
Ah oui. Dan devait prendre la bande de Gaza, mais comme les Philistins ont résisté, eh ben ils ont fini par foutre le camp au nord. Et bien là, alors c'est indiqué qu'ils sont dans une vallée. Donc à un endroit donné, je ne sais pas où, il y a une vallée. Faudrait voir toute la région que normalement ils auraient dû avoir. Ouais.
À l'est de Beersheba, il y a un peu de collines.
Mais je pense que ça doit se rapprocher quand même. C'est une vallée qui doit démarrer de Jérusalem pour descendre vers l'est. Ben, il faudrait voir sur une carte. Mais c'est bien indiqué qu'ils habitent une vallée tous les deux. Hein? Alors, est-ce qu'elle était vraiment philistine? C'est pas évident. C'est pas évident. Est-ce qu'ils ont couché ensemble? C'est pas évident non plus. Parce que pendant qu'elle l'endormait sur ses genoux, les Philistins, ils étaient dans la chambre à côté. Ça n'a pas d'intérêt d'ailleurs de le savoir. Alors, ici, donc. Ça, c'est de l'inaccompli, et on pourrait le traduire, ils m'attacheront. Si attaché, ils m'attacheront. Ah ben oui. Je peux effacer ? Alors, le mot suivant, c'est un bête avec un dagesh dedans, avec un a bref, un ein avec un sheva coloré en a, ensuite un bête et un o, un tav et un i long, et un même final. Et je mets le mot suivant parce que pour comprendre, ça c'est un chet avec un sheva coloré en A, un dalet avec un alon, un shin avec un i long et un même final. Voilà. Alors, comment on peut lire ça?
Ba
avotim. Là, c'est un bête, hein?
Oui.
Donc, ba a vo tim. Vous reconnaissez un masculin pluriel. Le deuxième mot. Ha, Hada, Shim. D'accord? Encore un masculin pluriel. Alors, ici, si on fait l'analyse de ce mot, on a déjà le pluriel qui est là. Hop. Et puis, vous avez un préfixe, bet, qui veut dire dans ou avec. Hein? Dans. Et ici, vous avez eu la racine. Donc, la racine avot, ben, ça veut dire corde, cordage, feuillage, branche, feuillage touffu, tressé, cordon, lien. Et le mot suivant, donc on a des cordes ici, hein, ou des liens, au pluriel. Hein. Alors, la traduction, c'est dans des liens. Dans des liens. dans des liens. Et le mot suivant, c'est si je retire le pluriel qui est là, vous avez la racine. Hadash. Hadash. Hadash, ça veut dire nouveau, chose nouvelle, récent, neuf, nouvellement. Donc c'est un adjectif ici, et on peut dire dans des liens nouveaux. Alors, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ça pourrait être ces liens ? Qu'est-ce qu'elle va trouver pour embêter le monde ? Alors, je suis allé voir à quel endroit on retrouvait ces liens dans la Bible. Ça, c'est vraiment la façon avec laquelle les Juifs travaillent. Quand ils trouvent une expression, un mot, etc., ils vont voir où on retrouve le même mot et pour voir un peu ce qu'on peut retrouver comme lien. Et je suis allé voir dans le psaume 2. Brisons leurs liens. Et ça parle de quoi ? Ça parle des liens du Mashiach. Et quels sont les liens du Mashiach ? C'est la Torah de Yeshua. Je vous rappelle que Yeshua n'a jamais annulé la Torah. Il est venu pour l'expliquer, pour l'accomplir, pour l'expliquer, et il nous l'a rendu plus difficile. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand il dit, quand vous regardez une femme, machin, si tu la vois dans ta tête, tu as déjà péché. Hein? Avant, ce n'était pas seulement dans la tête. Hein? C'était. Ben maintenant, c'est devenu plus difficile. Hein? Et bien voilà, donc on retrouve encore ces cordages, ces liens. En fait, ce sont des liens d'amour. Parce que vous retrouvez dans Osée 11.4 qui dit « Je l'ai tiré avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. » Et puis dans le psaume 129, on le retrouve aussi « L'Éternel est juste, il a coupé les cordes des méchants. » Donc c'est des liens. Mais ici, l'attaque qui va être faite par... Enfin, c'est mon interprétation toujours, hein, c'est discutable. Mais l'attaque qui est faite, elle est faite sur la Torah de Yeshua. C'est-à-dire sur sa parole. Donc, on a d'abord essayé d'attaquer Yeshua lui-même. Maintenant, on attaque sa parole. Et là, ça ne marche pas. Alors, bien sûr, le mot qui reste dans ce verset qu'on n'a pas étudié, c'est... est-ce que vous voyez quand j'écris là ? Ben, je vais effacer le haut. Alors, V, Kha. Alors, un Vav avec un Sheva. Ensuite, un Chet avec un A long. Un Lamed avec un I long. Et un Tav avec un I long. Véraliti. Bon. La racine de ce mot, on l'a déjà vu, j'en avais déjà parlé, c'est le verbe halal. Halal, c'est grave. Ah non, pardon, excusez-moi, c'est pas encore maintenant, c'est hala, ici. La racine, c'est hala. Comme ça. Donc, chet, lamed, he. Hala, ça veut dire être ou devenir faible. devenir malade, devenir affligé, fâché, frappé, faible, souffrir, souffrance. Et ici, c'est une forme active à l'accompli, et on peut traduire ici ce mot-là, « et je deviendrai souffrant ou faible ». Donc, si tu m'attaques sur la Torah de Yeshua, je deviendrai faible. D'accord ? On se rend compte que ça ne marche pas. Parce qu'il se croit malin, d'accord ? Et donc, quand il se réveille, crac ! Tu vois, tu n'as pas réussi à m'avoir. Alors elle va attaquer d'une autre façon. Ça veut dire « et je deviendrai faible ».
Mais tu n'as pas marqué deux fois là ?
Non.
Parce qu'il y a un « v-raliti » ici, en deuxième. Là.
Moi, je le vois deux fois aussi.
Ah non, il y a deux « yod ».
Non, c'est pas le même mot.
Non, il y a deux « yod ». Regarde mieux. Donc, il ne s'écrit pas comme ça.
Non. Ouais, regarde. Alors, on va passer à la troisième attaque. Ça, c'est dans Juge 16-13. Alors, je lis le texte. « Vatomer Delila el Shimshon Adena ad etalta bi vadaber » Elai, Kesavim, Agida, Libame, Teaser, Vayomer, Eleha. Alors, et dit Delila à Samson, jusqu'à ici tu t'es moqué de moi, et tu as parlé à moi des mensonges. Raconte à moi, avec quoi tu serais attaché? Et il dit à elle, et on arrive à la troisième attaque.
Pourquoi il lui donne la réponse ?
C'est ça qui est étonnant, c'est que
Parce qu'il est en train de se faire séduire.
Ah oui,
il est séduit.
Il y a une séduction, la séduction, c'est ça. C'est que tu fais confiance. Sinon, c'est pas de la séduction.
Oui, c'est vrai, t'as raison.
Le Seigneur, il a dit, ne vous laissez pas séduire. Mais oui, tout à fait. Alors, voilà la réponse de Samson. Aleph, avec un i bref et un même final. Ça, on l'a déjà vu. Im. Si.
C'est
être. Ensuite, on est dans.
Être. On n'est pas là.
16-13.
Bah oui, c'est pas.
À la fin. Bah c'est être. C'est être. Non.
Oula.
16-13.
Non, mais c'est vrai, hein. C'est pas un même, c'est un. C'est
attendez, il y a.
C'est
si, c'est là. C'est là.
Ah oui.
On l'a pas vu là.
Moi j'étais partie à la dernière escule, Daniel.
Ça va, tout le monde a trouvé ?
Oui, c'est pas la même chose.
Si.
On est ici.
16-13. Non, ça commence là.
Ah, d'accord, ok.
Ça commence là.
C'est là.
Tout le monde a trouvé ?
C'est la fin de la bande.
Alors, im. Ensuite, un tav avec un dagesh dedans, un abref, un alef avec un abref, un resh avec un sheva, un gimel avec un ilon.
Thank you.
Alors, en hébreu d'abord. Im. Ta. Or. Gi. Targi. Im targi.
Si. Je le sais.
Alors, ça c'est si.
Après,
si. Ici, ça c'est un verbe. Alors, le i qui est à la fin ici, comme ça, ça c'est moi. Si tu fais quelque chose à moi. Hein? D'accord? Bien. La racine de ce verbe, c'est Aleph, Resh, Gimel. Arag. Arag. Et ça, ça veut dire tisser, tresser, intriguer. D'accord? C'est un verbe là qui est à la forme pâle, à l'inaccompli, deuxième personne du féminin singulier. C'est-à-dire que c'est elle qui le fait. Donc, si on devait le traduire, c'est si tu tisseras, c'est de l'inaccompli, si tu tisseras, alors je ne sais pas français, hein, je reconnais. Donc on va traduire si tu tisses. Hein? Ensuite, vous avez Aleph, Ségol, Tav. Alors, ça vous reconnaissez, Et, et c'est intraduisible, hein, c'est un complément d'objet direct. Donc COD, on laisse tomber. Et derrière, vous avez un shin avec un ségol, un bet avec un A, bref, et un Ein. Je suis sûr que vous savez ce que c'est. Sheva.
Sheva. Ah, c'est 7.
C'est 7. Ça va donner Shabbat.
Ouais.
Comme quoi le Shabbat, c'est pas le premier jour de la semaine. C'est le septième. Dieu s'est pas reposé au début de son travail, il s'est reposé à la fin. Ça semble assez logique. Il n'y a que les chrétiens qui pourront tout inverser. Eux, ils se reposent avant de commencer. Faut le faire quand même, hein. Faut le faire, hein. Je sais pas moi, mais c'est le monde à l'envers, quoi. Pourquoi c'est à l'envers, les chrétiens?
C'est plus le sens de cessation que de repos.
Oui, c'est une cessation volontaire.
Hein?
Mais vous savez, les chrétiens, ils écrivent comme les Grecs, de gauche à droite. Mais pour comprendre la Bible, il faut le prendre dans l'autre sens. On a tout fait à l'envers. Bon, c'est pas grave.
Donc c'est
Sheva. Sheva, ça veut dire 7. Si tu tisses 7, alors on va continuer. Hein. Vous allez voir sur quoi porte la troisième attaque. C'est la plus violente. Quoique non, c'est la dernière qui gagne, mais elle est violente celle-là. Alors, un même avec un A bref, un chet avec un sheva, l'amed avec un Sheva, un P, un O et un Tav. Je vais mettre le mot qui suit parce qu'ils vont ensemble. Donc le mot qui suit, c'est un resh avec un O, un Aleph, un Shin et un I long. Oui. Vas-y.
Sheva, il y a un sens que pour lui connaît moins, c'est rapport à la ville de Beersheva. C'est que c'est, ça veut pas dire circuit, ça veut dire le puits de l'alliance. Il y a un sens d'alliance dans Sheva.
Dans Sheva, il y a un sens. Oui, mais ben, d'ailleurs, le Shabbat, c'est un moment de fort de l'alliance. Oui. Effectivement. On a plein de choses à comprendre, vous savez. Mais pour ça, il faut aller dans l'hébreu. Et il faut faire des ponts avec nos amis juifs. Ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Alors, ce mot-là, je l'ai trouvé complet dans les dictionnaires. Simplement, ici, il est au pluriel, hot. Hein, et c'est en fait des tresses, des mèches, des nattes, mais aussi des verrous. Oui. Alors c'est un nom qui est au féminin pluriel ici et qui est construit avec le mot suivant. Et le mot suivant, il se dit roshi. Donc si je lis tout, hein, ça fait mar les fautes roshi. Et ça, c'est détresse. Mais c'est une façon qui est écrite, qui est construite avec le mot suivant. Et ça veut dire tresse de roshi, roche. C'est la tête. Et roshi, c'est ma tête. Donc, tresse de ma tête. Donc, si tu tisses cette tresse de ma tête... Ça va jusque-là?
Oui, oui.
Je peux effacer?
Oui.
Le mot suivant, c'est un Ein avec un I bref et un même final, un trait d'union et puis un E avec un A bref, un même avec un dagesh dedans. Avec un A bref, un Samer avec un dagesh dedans, avec un A long, puis un Kaf avec un Ségol et un Tav. Alors, Im. Amasaret. Je vais l'écrire comme ça. Im Amasaret. Im, ça veut dire avec. C'est un de ces petits mots utiles hein, que j'oublie systématiquement. Mais comme c'est écrit, on le retrouve. Et ici, vous avez l'article qui est devant. Vous voyez, A ici, là, et le dagesh qui est là. Ça, c'est l'article. D'accord? Donc, c'est le lalé, l'article. Hein, avec le lalé, je ne sais pas quoi. Alors...
Et pourquoi il y a un dagesh dans le samer alors?
Ah ben là, je suis incapable de te le dire. Ça pourrait être ça, mais il faudrait voir la grammaire. Là, il faudrait demander à un prof de grammaire. Oui.
Le cave, c'est
pas un cas. Massacré. Oui, t'as raison. C'est un cas comme ça. T'as raison. Mais c'était pour voir.
Et t'as vu.
Elle me surveille. Hein.
C'est bien.
Alors, ce mot-là ici, c'est un mot féminin qui veut dire chaîne de tissage. Alors écoutez, quand j'ai réfléchi à ce truc, je me suis dit, mais pourquoi attacher ses cheveux à une chaîne de tissage ?
Oui, c'était les tresses tout simplement.
Elle tresse, c'est cette tresse oui. Avec la chaîne de tissage.
Ah, il y a une maintenue avec ça.
Ouais. Wow. Alors, regardez un peu. Ça touche à sa tête. C'est les pensées. Vous savez comment on dit la toile en anglais ? Le web. L'attaque se fait également par les idées qui viennent du monde à travers le web. On pourrait paraphraser ce verset d'une autre façon. Attache, c'est-à-dire modifie ma tête. Modifie mes pensées avec le web. Ça, c'est la troisième attaque. Et cette attaque-là, elle ne marche pas quand même. Mais on comprend que dans l'infiltration des idées qui viennent du monde entier et qui sont n'importe quoi, eh bien, quand les croyants sont connectés en permanence comme ça, à des idées qui viennent d'ailleurs et qui ne sont pas dans les Écritures, eh bien, ils se font polluer. Alors ils se croient encore malins, ils pensent qu'ils vont s'en sortir, mais un peu à la fois ils s'affaiblissent. Et on se rend compte que progressivement, si on parle de notre nombril, l'Église se fait polluer. Mais il n'y a pas que l'Église. Tous les croyants du monde se font polluer à travers les idées comme ça qui se diffusent. Voilà. Parce que ça arrive dans les maisons. Et voilà. Donc on se fait polluer. Alors, cette attaque ne réussit pas et on arrive à la quatrième attaque qui sera la bonne cette fois. Alors que je retrouve mes papiers. Oui, oui. Mais avec la toile, en fait. Avec la toile. C'est-à-dire que si j'ai pas été voir dans une Bible anglaise, mais je suis convaincu que ça doit être marqué avec le web. Hein.
Très entremêlé.
Très entremêlé. Voilà. Voilà. Alors, on arrive, juge 16-16. Juge 16-16. Quatrième attaque de la petite demoiselle gentille et faible et tout ce que vous voulez. Mon œil, hein. Il n'y a pas plus méchante. Bon, enfin bref. Un vav avec un a bref. Un iod avec un sheva. Un « hé » et un « ilon ».
Vaillis.
Alors, comment vous lisez ça? Vaillui. Hein? Alors, c'est un verbe. Qu'est-ce qui peut me dire quelle serait la racine de ce mot?
C'est le verbe être.
Exactement. Aya, le verbe être. Ouais. La racine. Aya. Qui donne le nom de Yod et Vavé, le nom de Dieu. Hein? Donc, c'est donc le verbe être, avec un Vav devant. Alors, c'est être, devenir, exister, établir, rester, précéder. Ça a beaucoup de sens. Hein? Aya. C'est un verbe à la forme pâle, un inaccompli, mais il y a un Vav inversif devant. Donc ça devient de l'accompli. Et là, ça veut dire « et il fut ». Et il fut. Le mot suivant, un kaf avec un dagesh dedans, un ilon, trait d'union. Un et, avec un et dessous. Un tsadi, avec un ilon. Un kof, avec un alon. Et un he. Et je mets le mot suivant parce que c'est important, ça va ensemble. Lamed, avec un dagesh dedans, et un O. Voilà. Alors, comment on va lire ça? Qui?
Etsika.
Et si ka l'eau. Qui etsika l'eau? L'eau, c'est lui.
C'est pas
ici, c'est lui, parce que c'est... Alors, pourquoi? C'est pas évident, parce que ça pourrait vouloir dire ne pas.
Oui, c'est ça.
Mais, c'est une composition de deux choses. Le lamed et le haut. Pour lui.
La négation, c'est un aleph, de toute façon. C'est lamed
aleph. Ah oui, t'as raison. Mais ici, c'est l'eau avec un aleph. Ici, c'est pour lui, si vous voulez. D'accord? On pourrait traduire pour lui, mais on va traduire lui. Hein? Le qui, ça veut dire comme. C'est un de ces petits mots utiles qu'on oublie tout le temps. Comme. Alors, ici, ça, c'est un verbe dont la racine est tsadi ou kof, tsouk, qui veut dire harceler, contraindre, presser, mettre à l'étroit, rétrécir, opprimer, mettre en détresse. Vous voyez la petite femme là? Hein? Le gros costaud, il s'est fait avoir. Il est en train de le rétrécir. Alors, c'est un verbe qui est à une forme ifil, Donc, c'est faire l'action à l'accompli, à la troisième personne du féminin singulier, et précédé du mot « que ou « comme ». Alors, je vous traduis depuis le début ce verset. « Et il fut qu'elle a mis en détresse lui. » Ça, tu peux le traduire aussi par « que ». Elle a mis en détresse lui. C'est-à-dire qu'elle l'a tellement fait. Vous me comprenez ?
Oui.
Je ne vais pas le dire, hein, parce que c'est enregistré. Hein. Mais vous avez compris. Hein. Elle l'a fait bien. Que le pauvre, il n'en peut plus. Usé. C'est le mot. Usé. Alors, comment elle fait ? Comment elle fait pour l'user ? Devinez. Comment une femme, elle fait pour user son mari ?
Elle insiste. Elle insiste.
Elle le harcèle.
Jusqu'à ce qu'il cède.
Ça, c'est trop dur.
Vous savez pas ?
Non.
Allez. Un bête. Avec un i. Dalet avec un cheva. Bête avec un alon. Resh avec un ségol. Iod. Et e avec un alon. Alors, on va essayer de le dire en hébreu, et puis ensuite essayer de trouver la racine. Non, non, il n'y a pas de dagage dedans, là.
Et en début de mot, il devient pas...
Oui, 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 mais c'est parce que la lettre qui précède est une voyelle.
Ah, oui.
Alors, c'est une règle de grammaire, et dans ce cas-là, ça reste, il n'y a pas de dagage dedans. Donc, c'est bien un V, ça. Hein? Donc, vie, vide. Alors là, on ne l'entend pas, parce que c'est... Hein? Vide, va, rei. Alors, je peux mettre un I ici. A. On peut le dire comme ça, hein? Vide varei a. Alors, est-ce que quelqu'un voit la racine là-dedans? Regardez. Très bien. Là, vous avez un préfixe. Et puis, on voit dabar là. Vous voyez? Dabar, c'est la parole. Comment une femme embête son mari ?
En parlant.
Il n'a plus.
Et les mères, c'est comment elles
deviennent ? C'est une forme de blague, a priori.
Alors, dabar. Dabar, c'est parler, déclarer, converser, commander, promettre, avertir, menacer, prendre la parole, ordonner. Pouf, au bout d'un moment, il n'y a un peu plus. Alors, c'est un nom masculin pluriel, construit. Construit avec un suffixe de troisième personne du féminin singulier. Et devant, vous avez « dans ». Autrement dit, on peut traduire « dans »,« c »,« a »,« l »,« parole ». je reprends, hein. Et il fut qu'elle a mis en détresse lui dans ses paroles. Elle l'a harcelé sans arrêt, voilà. Commandé, enfin tout ce qu'une femme peut faire pour, hein. Mais attends, c'est pas fini. Le mot suivant, un kaf avec un lamed, un kaf et un long et un lamed. Ensuite, un trait d'union, un E avec un A bref, un iod avec un dagesh dedans, un A long, un mem et un I long, et un mem final. Non, mais vous allez voir comme c'est terrible. Alors. Ah, alors ça se prononce col. Col. Qu'est-ce que ça veut dire?
On l'a déjà vu. De l'eau.
Regardez, col, c'est un petit mot utile qui veut dire tout, tous, toutes. Oui, pardon. Ça veut dire tout. Alors, comme c'est un pluriel ici, vous voyez, ben, c'est forcément un pluriel ici. Et vous avez ici un article avec le dagesh dans le yod. Donc, il y a l'article. Yamim. Au singulier, c'est yom.
Ah, le jour.
Voilà. Donc, vous avez tous les jours. Il n'y a pas de Shabbat. Tous les jours, elle l'enquiquine. Il y a un peu plus. C'est... Vous allez me dire, il n'y avait qu'à pas aller chez elle, hein, mais.
Il était séduit.
Alors, on continue.
C'est pas tout.
Un vav avec un A bref. Un tav avec un dagesh dedans. Et un shiva. Aleph avec un A bref, Lamed avec un Sheva coloré en or, un Tsadi avec un E, un He avec un OU. Voilà. Alors, en hébreu. Là, on l'entend pas, ça.
Hein?
Donc, vat. Ala. Tse. Ou. C'est d'accord?
Oui.
Alors, bon, le vav devant... On sait que c'est un préfixe. Et c'est un verbe. Alors, ici, à la fin, ça, on sait que c'est la troisième personne du masculin singulier. Donc, c'est il, si vous voulez. C'est un verbe. Donc elle va faire quelque chose à lui. Donc déjà, elle l'importune depuis tous les jours, hein, par son bavardage. Et ici, la racine de ce verbe, c'est un verbe, c'est Aleph, Lamed et Tzadi. Voilà. Donc, Alat, le verbe Alat, ça veut dire importuner, importuner. Prier avec insistance.
C'est comme la veuve et le juge
unique. Exhorter. Exhorter. Et je vais vous dire, ce qu'elle est en train de faire là, ce mot-là, il est unique dans la Bible. C'est dire que c'est pas... Ça sort de l'ordinaire. Ça sort de l'ordinaire, c'est un mot unique dans la Bible. Et ça veut dire, je crois que c'est faible ce qui est traduit là, et elle l'importuna. Mais je crois que c'est faible. C'est, dans ses paroles, elle l'a déjà mis en détresse, tous les jours, et elle utilise quelque chose qui est unique dans la Bible, de l'importuner d'une façon qui est unique. Alors lui, il se croit fort, hein. Jusqu'à présent, il s'en est toujours sorti, hein. Donc, première attaque contre Yeshua, deuxième attaque contre la parole, troisième attaque contre ses pensées, et maintenant, c'est du harcèlement. Du harcèlement, elle est en train de l'affaiblir, et donc, elle l'importuna, et elle l'importuna. Vav avec un A bref, Tav avec un Dagesh et un I, un Kof avec un Sheva, un Tzadi avec un A bref et un Resh. Alors oui, va, tic, tsar, comme ça, va, tic, tsar. Alors on reconnaît le vav devant, hein, et ici c'est encore un verbe. À votre avis, la racine c'est quoi? Exactement, la racine c'est ça. Voilà. Ça, vous voyez, ça concerne le temps. On l'avait ici déjà. Hein? Donc, c'est un verbe. Cette racine, elle veut dire s'impatienter, raccourcir, réduire, ratatiner. Ça veut dire aussi moissonner. Alors, ce verbe-là est à la forme active, à l'inaccompli, à la troisième personne du féminin singulier, mais comme il y a un vav inversif devant, ça devient de l'accompli. Et on pourrait traduire « et se ratatina » ou « et se réduisit ». Qu'est-ce qui va se réduire? Donc, je vous rappelle, hein, et il fut qu'elle l'a mis en détresse, lui, dans ses paroles tous les jours. Et elle l'importuna et se réduisit. Quoi?
Sa volonté.
Alors, on va voir. Nun. Nun avec un A bref, un P avec un Sheva, un Shin et un O. Et je mets le dernier mot qui va avec, Lamed avec un A long, un Mem, un OU et un Tav. Alors, comment on va dire ça en hébreu ? Naf. Chou. C'est un O. Lamout. Naf, chou, lamout. À votre avis, quelle est la racine du premier mot ? Nefesh. C'est, alors on peut traduire par l'âme.
C'est une partie de l'âme.
C'est son être intérieur, si vous voulez. Donc, ce qui est en train de se ratatiner, c'est son être intérieur. Mais elle le ratatine à un point terrible. Parce que, regardez, la lamède ici, ça c'est un préfixe qui veut dire pour. Ou jusqu'à. Et ici, vous avez mout. Mout, c'est la racine, c'est mamot, qui veut dire mourir, tuer, être exécuté, périr. Autrement dit, elle ratatine son âme jusqu'à la mort. Donc vous imaginez le travail qu'elle a fait.
Elle s'est appliquée en tout cas.
Elle s'est appliquée.
Tous les jours, elle
doit se... Le pauvre, il n'y a un peu plus. Oui, c'est devenu une loque. Littéralement, elle a réussi à l'user. Alors, je vais revenir un petit peu à l'état des chrétiens. Mais pas seulement des chrétiens, tous les croyants du monde. Parce qu'il y a beaucoup aussi de juifs qui sont séduits. Hein? Donc, comme elle était à le tourmenter, à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta jusqu'à la mort. Et on constate que c'est quelque chose de terrible. Et une grande partie de l'Église, à la fin des temps, n'est pas en paix. Sa relation avec Dieu est trop faible. Et beaucoup manquent d'huile. Et qu'est-ce qui va se produire ? C'est que beaucoup finissent par s'endormir, usés par les tourments, les soucis de la vie, le monde qui est effrayant, usé parce que ça ne va pas. Hein? Et qu'est-ce qui use comme ça? Ben, c'est celle qui séduit. Celle qui séduit, elle est cachée. Elle est cachée, c'est la séduction du monde. Hein? Et donc, si on comprend que d'un point de vue chrétien, je suis toujours dans mon nombril, hein? Samson est une image d'une partie de l'Église finale, confronté au monde qui est représenté ici par la Philistine. Si nous voyons en Delila la prostituée de l'Apocalypse, cette partie qui est courtisée par la prostituée, cette partie, elle résiste aux attaques contre Yeshua. Elle résiste aux attaques contre la Torah de Yeshua. Elle résiste à certaines idées du monde. Mais elle est devenue tellement faible, cette Église, alors qu'elle se croit forte, qu'avec l'usure du temps, elle s'endort.
C'est décrit là comme le livre de la...
Absolument. Et elle devient tiède, usée, par l'usure. Elle s'endort. On dit que Samson s'est endormi sur les genoux de Delila. Hein, donc, il s'endort parce qu'il n'en peut plus. Elle n'en peut plus, elle s'endort. Et elle est tiède, il s'endort. Elle est tiède à la fin, l'Église. Et qu'est-ce que nous dit l'Apocalypse ? Parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et oui, et je pense que cette Église qui s'endort se fera détruire physiquement. Ah oui ? Ah oui, oui, elle se fera détruire parce que Samson était détruit.
Physiquement. Pas,
physiquement. Pas seulement spirituellement et physiquement. Je te vomirai. Tu ne seras plus dans mon camp. Et donc, c'est très important de comprendre cette attaque. Enfin, moi, c'est ma façon d'analyser Samson. Hein. Et donc, on va voir maintenant ce qui se produit en finale, qui est le plus dramatique. C'est le verset. Alors, on va aller voir le verset 20, parce que je ne sais pas si on aura le temps de faire le 19, mais le 19, je vais vous le lire, je vais vous le traduire mot à mot. Elle endormit lui sur ses genoux, et elle a appelé vers l'homme, donc il y avait un homme qui attendait. On sait très bien que c'était des princes des Philistins qu'il a payé. Hein, c'était pour de l'argent. Et elle a rasé 7 tresses de sa tête. Elle a fait profaner et elle a fait profaner Samson. Je vous rappelle que là, la racine qui est utilisée, vous verrez, c'est halal. Donc, en lui faisant couper ses tresses, il profane. Mais oui, parce que son vœu, c'était naziréa. Normalement, un naziréen, un nazir, c'est pour un mois. Mais lui, c'était pour sa vie. Et du fait qu'il a donné le truc, elle a coupé ses cheveux. Il profane Dieu, il profane sa promesse. D'accord ? Et en profanant, il perd sa force. Alors, le mot qui est utilisé, c'est halal. On peut faire hallelujah, à ne pas confondre avec alléluia. Hein, j'en avais parlé l'année dernière. Halal, c'est profaner. Halal, c'est louer Dieu, c'est le bénir, c'est élever Dieu. Vous voyez la différence ? La différence ? La différence entre halal et halal ? Regardez, c'est juste le petit trou qui est là. C'est le petit trou qui laisse passer le Saint-Esprit, que là, il passe pas. Alors, ça fait beaucoup de musique, ça fait boum boum, tralala, mais c'est un scandale pour Dieu. Il faut faire très attention à ce qu'on appelle louange dans les églises.
Et il rend profane parce qu'en fait, un engagement envers Dieu, ça doit être éternel. Quoi. Et là, il met Dieu au rang des hommes où on peut dire quelque chose et pas le faire. Voilà, c'est
bah oui. Ça, profane. Bah d'ailleurs, il dit, si tu fais ceci sur ma tête, si je serai comme les autres hommes.
Oui.
Donc, il n'est plus naziréen. Mmh. Un naziréen, il est mis à part.
Oui.
Donc, il ne doit pas rompre son vœu. Et c'était le symbole, c'était ses cheveux. Donc voilà. Alors, faut jamais rompre un engagement qu'on a pris devant Dieu. Non plus. Voilà. Alors, il y a une chose importante qu'il faut savoir, c'est que quand il y a un couple et que, par exemple, l'épouse fait un vœu. Bon. Si son mari apprend qu'elle a fait un vœu. Et que ben, ça ne lui plaît pas parce que c'est trop de contraintes, par exemple, ou je ne sais pas quoi. Mm-hmm. Imaginons, hein. il faut, dès qu'il l'apprend, dénoncer ce vœu. Oui. S'il attend le lendemain, oui, c'est comme s'il était d'accord.
Voilà.
Ça, c'est dans la Torah.
Oui,
vous voyez,
si c'est par ignorance, c'est
dès qu'il apprend le vœu de sa femme,
oui,
tout de suite, il doit le dénoncer, il a le droit. S'il attend le lendemain, c'est trop tard. Voilà. Et ça veut dire quoi dans la Torah? Ça veut dire que si elle ne tient pas son engagement, c'est lui qui sera puni. Vous comprenez? C'est très grave. S'il ne le sait pas, il ne le sait pas. Mais le jour où il l'apprend, il a le droit de dénoncer. S'il ne le fait pas, c'est lui qui prendra les pots cassés.
S'il se tait, le vœu peut toujours...
S'il se tait, le vœu est maintenu et c'est lui le responsable. C'est comme si c'était lui qui l'avait tué.
Mais elle non plus, elle ne tient pas son engagement.
Oui, mais c'est lui le chef de famille.
Ah oui, d'accord.
Voilà.
D'accord.
Et c'est ça, la Torah.
Finalement, l'engagement du baptême, maintenant des lieux propres.
Bien sûr.
L'engagement à vie.
Bien sûr. Alors, nous allons passer au verset 20. Alors, je vous lis en français le début du verset. Hein. Et elle dit, les Philistins sur toi, Samson. Et il s'éveilla de son sommeil et dit, je sortirai comme une fois. On traduit quelquefois comme les autres fois, mais c'est comme une fois. Donc, il se croit fort. Hein, et on reconnaît vraiment la Odyssée.
Ah oui, allez.
Hein?
Je suis riche.
Je suis riche, je suis plus malin que tout le monde, etc., etc. Le mot suivant, bête, avec un dagesh dedans, un sheva, un p avec un a bref, ein avec un a bref, et un même final. Je mets le mot suivant. Vav avec un sheva, Aleph avec un i, Nun avec un a long, Ein avec un e, et puis Resh. Voilà. Donc, je vous rappelle la situation, hein. Il s'est endormi et tout d'un coup, elle le réveille. C'est elle qui le réveille. Vous savez, les 10 vierges à la fin, là. Ben, c'est la prostituée qui réveille. Là, dans l'histoire, c'est la prostituée qui réveille. Allez, oh, je vais m'en sortir comme les autres fois. Alors, ici... B, Fa, Am, V, Ina, R. Alors, le premier mot... Il y a un préfixe devant qui veut dire dans ou en. Et la racine est là, femme, qui veut dire un coup de pied, vous savez, une marche, un étage, une enclume, une occurrence. Cette fois, une fois, maintenant. Un coin, un angle, un temps, un battement. Alors, on pourrait traduire ici en un coup, en un coup, donc il se réveille, hein, en un coup, et on a ici un verbe avec un vav devant, et c'est un verbe qui est au passif, à la forme nifal, à l'inaccompli, et la racine, c'est ça. Nar, ici la racine. Et ça veut dire secouer. Se secouer. Jeter bas. Être mis dehors. Être chassé. Expulsé. Délogé. Autrement dit, il dit en un coup, je me secouerai. Donc il est confiant en lui-même. Hein? Oui. Chouette, tu me réveilles, voilà les Philistins, tiens, j'ai plus de cheveux sur ma tête. Et il doit se rendre compte quand même que... Hein?
Oui, du fait
il n'y a plus de cheveux. Hein? Ah ouais. En un coup, je me secourais. Vav avec un E, He avec un OU, Vav avec un Sheva, pardon, He avec un OU, Aleph. V, OU. Ce qui veut dire « et lui ». En un coup, je me secourai, et lui, ça va jusque-là ? Je peux effacer ? Le mot suivant, lamed avec un O et Aleph.
L'eau.
Ne pas. Dans un coup, je me secourai et lui ne pas. Yod avec un A long. Dalet. Avec un A bref et Ein. Ben, c'est un verbe là. La racine, vous l'avez, Yada, hein, qui est à la forme pâle, à l'accompli, troisième personne du masculin singulier, et qui veut dire savoir, connaître, reconnaître, apprendre, connaissance. Donc, c'est de l'accompli. Donc, ne pas connaissait et lui ne pas connaissait. Ah oui, c'est du... C'est de l'hébreu, hein. Un kaf avec un dagesh dedans et un ilon. Hein? Tu l'auras, hein? Troisième personne du masculin singulier. Qui, c'est un petit mot utile, hein, qui, ça veut dire que, pour, parce que, quand, quoique, quelquefois comme, mais, alors. Donc c'est une particule qu'on pourrait dire que. Donc, lui ne pas connaissait que. Le mot suivant, Yod et Vav et. c'est-à-dire que c'est Dieu lui-même. Hein? C'est quand même quelque chose. Hein? Le mot suivant, sa mère, avec un halon et un rech. Sar, qui vient de la racine sour, qui veut dire détourner, partir, s'en aller, ôter, se détourner, s'éloigner, enlever, repousser. Et ici, c'est à la forme pâle, à l'accompli, à la troisième personne du masculin singulier. Ça veut dire que Yod et Vavé s'en étaient allés. Et s'en étaient allés de qui, de où? Alors, même avec un E, Ein avec un halon, Lamed avec un halon, Yod, Vav. Attention, ce n'est pas un noun à la fin, c'est un vav. Hein? Alors, comment vous dites ça en hébreu?
Me'alaiv.
Mais à la Yves. Alors, ouais, je vais mettre l'apostrophe ici. Le même qui est devant, c'est Min, qu'on a déjà vu, qui veut dire depuis. D'accord ? La racine du mot qui est là, c'est Al. Al. Al, on retrouve beaucoup dans la Bible, quand par exemple, dans la Genèse, vous avez l'Esprit de Dieu plané sur les eaux. C'est Al. Donc ça, ça veut dire sur. Et à la fin, vous avez lui. Donc, ça veut dire Yod et Vavé s'en était allé de sur lui. C'est terrible, hein? Alors, voilà déjà des personnes, parce qu'à midi, pile, il y a jeûne et prière ici, donc on m'a demandé de ne pas trop traîner. Je vais vous distribuer le papier. Que le Seigneur vous bénisse tous.